Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de démontrer par les chiffres pourquoi les femmes n'arrivent plus à trouver de partenaire. La solitude est en train de devenir une réalité pour beaucoup de femmes et je ne dis pas ça avec mépris, je dis ça pour les avertir de ce qui risque de leur arriver si elles ne prennent pas aussi la pilule rouge et si elles ne prennent pas la mesure des choses. Il est temps pour elles de voir le monde tel qu'il est et non telles qu'elles ont envie qu'il soit. Une étude de Morgan Stanley publiée dans un article intitulé « The Rise of the She Economy », l'émergence de la « L » économie, « L » pronom féminin, « E-2-L-E », explique que d'ici 2030, 45% des femmes américaines âgées entre 25 et 44 ans seront célibataires. Écoutez bien ce chiffre, en 2030, près de une femme sur deux, âgée entre 25 et 44 ans, sera célibataire pour le restant de ses jours. Et ça veut tout simplement dire qu'elles n'auront aucun partenaire permanent et finiront leur vie seules. Et ce chiffre continuera à augmenter à raison de 1,2% par an. Un autre chiffre publié dans le Daily Mail dévoile que 53% des femmes de moins de 30 ans n'ont pas d'enfants. L'âge moyen pour avoir un enfant a atteint 31 ans pour la première fois de l'histoire. Par comparaison, l'âge moyen auquel les baby boomers, et là on parle bien sûr des femmes, avaient leur premier enfant était de 22 ans. En termes d'économie, si on veut être un peu cynique, et c'était aussi le but de cette étude de Morgan Stanley, on pourrait déduire que les business relatifs aux chats, bar à chat, jouets pour chat, alimentation pour chat, vont exploser. Pourquoi ? Parce que la solitude orientera naturellement des millions de femmes seules vers ces animaux de compagnie. Et à ce type de business, on pourrait aussi ajouter les antidépresseurs dont les femmes sont les premiers consommateurs, les services pour cryogéniser les ovules, l'alcool et surtout le vin. Et on peut déjà imaginer un futur avec des soirées célibataires pour femmes où elles pourront se raconter à quel point les hommes sont horribles en sirotant du vin dont moi-même et Morgan Stanley seront actionnaires. Et quelque part, si vous souhaitez devenir riche, tous les business associés à cette future solitude des femmes seront une opportunité extraordinaire et les banquiers l'ont parfaitement compris. Dans cette étude, Morgan Stanley s'intéresse surtout aux investisseurs afin de les aider à placer leur argent en fonction de cette nouvelle donne socio-économique. Et comme les femmes investissent très peu en bourse, eh bien c'est essentiellement les hommes qui profiteront de cette manne financière. Et avant de passer à la démonstration technique, je souhaitais m'arrêter un instant sur les quelques notions que je viens de développer. Il faut bien comprendre que la solitude et la solitude des femmes et leur célibat est un business. Lorsqu'on compte, lorsqu'on calcule en milliards de dollars ce que représente la dépense liée à la solitude, c'est phénoménal. Entre les animaux de compagnie, leur alimentation, leurs jouets, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous les cachetons, et encore une fois, vous pouvez aller vérifier les sources, les femmes sont le premier ou les premiers consommateurs d'antidépresseurs au monde. Toutes les activités qu'elles devront faire pour compenser cette solitude, parce que lorsqu'on vit seul, lorsqu'on n'a pas d'enfant, eh bien on va aller faire du yoga, on va aller voyager, on va essayer d'oublier cette solitude. Et quelque part, vous allez me dire, oh, l'observateur, c'est pas grave, le yoga c'est bien, les voyages c'est bien. Oui, mais c'est bien lorsqu'on les fait en tant que personne épanouie. Si t'es heureux dans ta vie, si t'es équilibré et que tu fais du yoga ou que tu vas voyager dans un pays tropical, pourquoi pas? Mais si tu vas dans un pays tropical pour te taper des petits jeunes parce qu'il n'y a plus personne en Occident qui veut te toucher, lorsque t'es une femme et que tu vas, dans des pays de la misère pour essayer de trouver un black qui veut bien de toi, je trouve pas ça particulièrement sain. Et la raison pour laquelle j'ai trouvé cette étude de Morgan Stanley que je vous mettrai en description de cette vidéo intéressante, c'est qu'elle a quelque part décomplexé ce sujet, un sujet dont personne ne veut parler, Personne ne veut parler du coût, du prix, de la valeur de la solitude des femmes. Et on comprend en lisant cette étude, en s'intéressant à ça, que c'est une vraie économie. Et on peut même se demander si l'éclatement de la famille, l'encouragement de la femme indépendante, l'encouragement à la solitude, l'idée de dire aux femmes « ne faites pas de gamins, ayez des carrières, travaillez, vous êtes les égales des hommes », il y a peut-être derrière aussi la volonté de développer une certaine forme d'économie. Malheureusement, les femmes le réalisent très tard. Elles travaillent, elles font la working girl de 25 à 32, 33 ans. Et à un moment, elles se réveillent un matin, 33, 34 ans. T'as des choses qui commencent à partir en couille. La peau ne tient plus aussi bien qu'avant. Les hommes te regardent moins. Et ceux qui te regardent, en général, veulent essentiellement du sexe. Hein. Très peu d'hommes, faut être honnête. Si j'ai envie d'avoir des enfants, je vais viser du 25, 26, grand maximum 27 ans, mais jamais au grand jamais, et ça n'engage que moi, hein, c'est pas un jugement de valeur général, j'ai le droit d'avoir des choix et des options, jamais je ne ferai un enfant à une femme qui a plus de 27 ans. Pourquoi ? Parce que avec les informations que j'ai pu collecter, avec les informations que j'ai, je considère que c'est dangereux. Les risques d'autisme augmentent, les risques de malformation augmentent, les risques de problèmes d'une façon générale, autant pour la mère que pour l'enfant, augmentent. Donc c'est un choix personnel. S'il y a des hommes qui préfèrent s'amuser à ça, aller faire des gamins, des gonzesses de 35, 36 ans, allez-y, que bien vous en fasse. Mais c'est pas mon attitude, c'est pas ma vision des choses. Et je pense que beaucoup d'hommes réfléchissent de la même façon. Et en général, quand tu fréquentes une gonzesse qui a cet âge, c'est que tu as envie de t'amuser, sexuellement parlant. Mais l'avenir avec elle, quel est l'avenir? Comment tu peux te projeter honnêtement avec une femme qui a 33, 34, 35 ans? Admettons, hein, je vais essayer de ne pas être trop dur, d'être le plus objectif possible. Tu la rencontres à 33 ans, tu ne vas pas faire des gamins tout de suite. Tu vas un peu la fréquenter, il faut se connaître, il faut savoir si elle est équilibrée, si ce n'est pas une folle. Elle aussi, elle aura besoin de te connaître. Donc, on va dire que 2 ans plus tard, vous aurez fait quelques voyages, vous vous serez fréquenté sur une durée correcte de 2 ans. Elle a déjà 35 ans. Tu fais le premier enfant à quoi? 36 ans? Le deuxième à quoi? 38, 39 ans? Tu vois bien que déjà en termes de timing, c'est flingué dès le départ. Et malheureusement, c'est comme ça que l'illusion du monde moderne a flingué beaucoup de femmes, parce qu'elles ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive. Elles travaillent tête baissée, elles sont dans la carrière, 27, 26, jusqu'à 30, 31 ans. Puis à 31 ans, elles se réveillent, ah merde, les ovules, la fertilité, faut que je pense à faire un truc. Elles sont en panique, et je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai fréquenté des femmes de 31, 32 ans sans avoir de projet long terme avec elles, sauf qu'elles avaient des projets long terme avec moi. Pourquoi ? Parce que horloge biologique, elles savent que ce mec qu'elles ont sécurisé, qui gagne correctement sa vie, qui est intelligent, qui est pas trop moche, c'est une opportunité comme il n'y en a pas beaucoup, faut rapidement lui faire un gamin. Sauf que moi, je suis pas dans ce délire, j'étais pas dans ce délire. En tant qu'homme, je suis fertile jusqu'à ma mort, je peux concevoir jusqu'à ma mort. Je suis pas en train de vous dire que je vais faire des gamins à 70 ans, mais je suis techniquement sur le papier fertile jusqu'à mon dernier souffle. Donc je n'ai pas la pression de ces femmes. Je n'ai pas non plus la pression de ces femmes parce qu'avec l'âge, ma valeur augmente. Et j'avoue que j'ai jamais eu autant de succès avec les femmes qu'aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de succès avec les femmes aujourd'hui que je n'en avais à 26, 27, 30, 31. On va dire que j'ai commencé réellement à avoir du succès avec les femmes, c'est-à-dire à en avoir facilement, à en avoir qui me regardent, qui me sollicitent, qui veulent me voir, etc. Ça a commencé à 35 ans. Et ça a aussi correspondu à une époque où j'ai commencé à bien me sentir. À partir de 35 ans, c'est comme un déclic, bizarrement, j'ai commencé à être à l'aise avec moi-même, à savoir qui je suis. J'ai fait le travail sur mes peurs, sur mes angoisses. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai commencé à avoir à cet âge une certaine maturité. Et j'ai clairement commencé à savoir ce que je voulais. Et si ça peut rassurer les plus jeunes qui m'écoutent, un homme, c'est comme un bon vin. Un homme qui s'entretient, bien sûr, un homme qui fait attention à lui. Si tu manges de la merde et que tu fais pas de sport, à 40 ans, tu ressembleras à une merde. Un homme qui s'entretient sur tous les plans, vieillit comme un bon vin. Il prend de la valeur, il prend de l'épaisseur, il prend de la profondeur. Et on n'est pas dans le même schéma féminin de la panique et de l'horloge biologique. Tu seras extrêmement séduisant à 40 ans, à 42, à 45, jusqu'à 50 ans. J'ai envie de dire que les meilleures années pour un homme, je pense que les années où tu capitalises le plus, où tu te fais le plus d'argent, où tu as le plus de succès, où tu es le plus intéressant, j'ai envie de dire c'est entre 35 et 50 ans. J'ai l'impression que cette fenêtre, c'est vraiment l'âge d'or pour un homme. Tu peux toujours être intéressant après 50 ans, mais on va dire qu'à 50 ans, tu peux encore avoir un corps très correct. Tu peux encore pécho de la gonzesse de 25 ans si tu en as envie, mais pas à n'importe quel prix. Pour faire simple, si tu as 50 ans, que tu as un physique correct, que tu as des revenus plus que corrects, tu pourras éventuellement baiser ta petite secrétaire de 25 ans sans aucun problème et c'est même elle qui va te le demander. Si t'es un loser de 50 ans, faut pas rêver. Bon, faut être un peu réaliste et cohérent. C'est pas le cas pour une femme. Une femme qui a réussi sa vie, qui est millionnaire à 50 ans, ne va pas forcément attirer des mecs. Ou alors, elle va attirer ceux qui en veulent après son argent. Mais physiquement, je suis désolé, t'as pas envie de pécho des gonzesses de 50 ans. Donc la biologie pour une femme, c'est important. La biologie pour un homme, c'est différent. C'est aussi important, mais c'est différent. On n'a pas d'horloge dans notre tête qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. On fait des gamins quand on veut, sous nos conditions et avec qui on veut. C'est pour ça que c'est important. La seule chose que doit faire un homme, la seule mission d'un homme, c'est de réussir sa vie. C'est ta seule mission. C'est ta seule mission. Pourquoi ? Parce que lorsque tu réussis ta vie, tu as le choix. C'est ça que ça te permet d'avoir. Lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle de la réussite, oublions un peu tout ce que peut t'acheter à l'argent. Oublie un peu les conneries des fringues, des montres, des Lamborghini. Oublie un peu ces conneries bling-bling complètement débiles. La réalité de l'argent, la réalité de la ressource, c'est quoi ? C'est que ça te permet d'avoir le choix. Lorsque tu es un homme qui a de la ressource et qui a de la valeur, la différence avec tous les autres hommes, c'est que eux vont prendre ce qui leur passe devant, vont prendre les femmes qui veulent bien d'eux, et toi, tu auras le choix. Tu choisiras dans la file, tu choisiras parmi toutes les prétendantes qui te tournent autour, celle que tu voudras. Et maintenant, on va passer à la démonstration technique par laquelle on va tenter d'expliquer les raisons de cette solitude des femmes. Et vous verrez que c'est essentiellement lié à ce que j'appelle la grande illusion ou la grande désillusion. Pour faire cette démonstration, je vais utiliser un site qui s'intitule Female Delusion Calculator. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et qui veut simplement dire, en traduction littérale, le simulateur de l'illusion féminine. Et à quoi sert ce simulateur ? Il nous montre, en fonction de critères d'âge, de taille et de revenus, quelle est la proportion des hommes disponibles au sein de la population. Donc, en termes d'âge, on va mettre entre 30 et 40 ans. C'est à peu près les hommes que les femmes recherchent. C'est l'âge où on est à peu près sérieux, où on peut éventuellement se poser et éventuellement se marier. On va, en termes de taille, mettre 6 foot, 6 pieds, qui représente 1,83 m. Et on va dire que c'est une taille que les femmes aiment d'une façon générale. Les femmes aiment les grands hommes. C'est pas le seul critère, mais on va dire que tu as plus de chances de séduire quand tu es grand que quand tu es moins grand. C'est comme ça, c'est la vie. En termes de race, on va mettre toute race confondue, toute couleur de peau confondue, peu importe, on va prendre tous les hommes. On va exclure les hommes mariés, parce que ça ne nous intéresse pas. S'ils sont mariés, ils sont pris. On va exclure les hommes obèses, parce que, ce n'est pas des hommes que les femmes regardent. Et en termes de revenus, on va mettre 80K. 80K, là c'est du dollar, mais on peut imaginer que c'est de l'euro. C'est pas énorme, 80K brut. Admettons qu'on paye en gros 50% d'impôt sur le revenu, ça nous fait 40K net, ça fait 3300 euros par mois. C'est correct, mais c'est pas la fête du slip. T'es pas riche avec 3300 euros par mois. Mais pour la France, on va dire que c'est un revenu très correct. Peut-être pas pour la Suisse, mais pour la France, en tout cas, c'est un revenu très correct. Et on va essayer de voir ce que représentent ces hommes dans la population. Ça, en gros, c'est l'homme moyen que les femmes cherchent. Elles veulent un homme entre 30 et 40 ans. On va estimer qu'elles n'ont pas particulièrement de préférence ethnique du moment qu'il est grand et du moment qu'il gagne correctement sa vie. Find out, on va chercher ce que ça représente. Ces hommes représentent 0,79% de la population. Il n'y a que 0,79% des hommes qui répondent à ces critères. Et là, il y a un truc un peu marrant sur ce site, le delusion score, le score illusoire, le score de l'illusion, c'est-à-dire que ces femmes ont 4 chances sur 5 de finir avec un chat. Ce sont des cat enthousiastes, parce que leurs critères ne sont pas réalistes. Et voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris d'où vient la solitude des femmes. Elle vient du fait que, en fonction de leurs critères, il n'y a tout simplement pas suffisamment d'hommes. Toutes les femmes se battent pour 0,79% des hommes. Alors ça, c'est une statistique aux États-Unis, mais on peut appliquer ça à tous les pays occidentaux d'une façon générale. Et encore, vous aurez remarqué que dans ces critères, il n'y a pas les critères de beauté, parce que le mec peut être grand et moche et il n'intéressera aucune gonzesse. Donc imaginez si on ajoute un critère de beauté, ça va descendre à 0,3%. Si on avait une barre avec l'homme et son physique 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, on va dire que les femmes voudront toutes du 8 ou du 9 sur 10. Vous savez que les femmes prennent toujours au-dessus de leur ligue. Les hommes n'ont pas de mal à prendre en dessous de leur ligue. Un homme très beau va à un 8 sur 10 ou un 9 sur 10, va accepter de traîner ou de baiser une 7 sur 10. On est comme ça, voilà, on a plus de testostérone, on est plus orienté sur la sexualité, on est plus enclin à disperser notre semence pour la survie de l'espèce, alors que les femmes sont plus sélectives parce qu'elles ne peuvent pas être fécondées indéfiniment par n'importe qui. Et une fois qu'elles sont fécondées, ben, ça dure 9 mois, c'est compliqué, c'est galère. Donc elles sont plus sélectives. La sexualité n'a quasiment aucune incidence pour un homme. Une fois que tu as balancé la purée, tu peux partir et disparaître. Pour une femme, c'est pas pareil. Quand on lui balance la purée, quand un clochard la baise et se sauve, et qu'elle hérite du gamin après, c'est compliqué. Et voilà pourquoi elles sont sélectives. Tout a une explication du point de vue de l'évolution. Rien n'est gratuit. La nature ne fait rien gratuitement. Tout a une explication logique qui a permis la survie de l'espèce. C'est grâce à ces comportements-là qu'on existe encore aujourd'hui. Il y a des gens dans la communauté, des incels ou des hommes qui sont un peu frustrés de l'attitude des femmes, qui vont dire, ouais, les femmes sont trop sélectives, elles veulent pas de nous. Oui, mais c'est grâce à cette sélectivité que vous et moi sommes là aujourd'hui. Si les femmes n'avaient pas été programmées à choisir les partenaires les plus forts, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont capables de leur donner une bonne descendance, c'est grâce à ça que vous et moi sommes là aujourd'hui. Si nos ancêtres avaient baisé des clochards, des fous, des malades qui s'étaient sauvés, qui ne s'étaient pas occupés d'elles, l'humanité aurait cessé d'exister. Donc, autant je suis le premier à critiquer la grognasse à la pelle, autant je suis le premier avocat des théories évolutionnistes qui expliquent aussi les comportements, les pires comme les meilleurs, par l'évolution. Et on va essayer de jouer un peu avec le curseur, allez, juste pour le délire, on va descendre en taille à 5'7", 5'7", qui doit correspondre à 1m74, histoire de prendre des hommes un peu moins grands. On va rester sur le même type de salaire. On va aussi exclure les hommes mariés, parce que ça n'a pas d'intérêt. On va exclure les obèses. Et find out, et on verra ce que ça représente. Ça représente 3,1% de la population. C'est-à-dire que même si on est sur des hommes pas très grands, ça reste quand même 3%, quoi. Sur 100 mecs, t'en as que 3 qui sont susceptibles de plaire à la femme moderne. Mais déjà, ça explique que si elle est plus réaliste sur ses critères de taille, elle a déjà un peu plus de chances de trouver quelqu'un. 3,1% de la population contre 0,79% pour ceux qui font 1m83 et plus. Et on va essayer de jouer maintenant avec les revenus. Les femmes qui cherchent des hommes riches, des hommes qui font, allez, on va mettre 100K, les fameux six figures, les 6 chiffres, les fameux 100K par an. On va voir ce que ça représente dans la population en gardant une taille qui n'est pas particulièrement grande. Eh bien, 2%. Et si on passe sur les profils acteurs, je vais faire ça, ça va être la dernière simulation, on va revenir sur un homme relativement grand qui va faire du 150K par an. Et là, voilà, c'est les gonzesses les plus belles, les top modèles qui cherchent vraiment des beaux gosses. Et on va voir ce que ça représente de la population, ce que ça représente de la population masculine. Ça représente 0,19%. Et ce site à lui seul, cette démonstration à elle seule, explique la solitude des femmes. C'est-à-dire que quand les femmes vous disent « je ne trouve pas d'hommes », où sont passés les hommes ? J'ai du mal à trouver des hommes. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes ? Elles ont le sentiment que ce qu'elles demandent n'est pas délirant. Elles pensent que c'est normal. Voilà, je veux un mec, beau gosse, grand, qui gagne 150K par an. Oui, mais ça ne représente que 0,2% des hommes. Tu trouveras jamais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces hommes-là ne s'intéressent pas forcément à toi. Le mec qui est beau gosse, qui fait 1m80 et 150K dans l'année, il ne va pas regarder Magali 80 kilos. Je suis désolé s'il y a des Magali qui m'écoutent. C'est un prénom générique, hein, j'ai rien contre vous. Mais il ne te regardera pas. J'ai une petite anecdote à vous raconter, ça se passait au bureau en Angleterre. Je bossais avec un collègue qui était particulièrement beau. C'était un Britannique, blond, très grand, 1m90, 92, plutôt beau gosse. Il était quantity surveyor, économiste de la construction. Et il y avait une gonzesse au bureau qui lui tournait autour. Et elle, c'était vraiment basique. C'était une espèce d'anglaise petite, grosse, le truc qui passe pas dans ton radar normalement. Tu vas bosser le matin, tu lui dis bonjour et tu passes à autre chose. C'est pas la gonzesse que tu mates. Et elle avait posé son dévolu sur ce mec. Elle était à fond sur lui. Et à un moment, parce qu'il en avait marre, parce qu'elle lui tournait trop autour, parce qu'elle le faisait chier à chaque fois, voulait manger avec lui pendant sa pause déjeuner, elle se posait à côté. Et lui, il osait pas lui dire que non, il avait honte et il était assez poli, et il n'osait pas lui dire « dégage, dégage, fous-moi la paix, non ». Et à un moment, il craque, et il lui dit « écoute, il peut rien se passer, t'es ma collègue, t'es sympathique, mais faut arrêter, je peux pas ». Il a dû lui raconter un bobard du type « j'ai une copine », et elle s'est vexée un truc de fou. Elle était enragée, la meuf. Elle a pleuré dans la kitchenette, c'était un coin, un petit espace où on pouvait faire du thé, il y avait des biscuits, on pouvait se poser. Elle a passé une demi-heure à pleurer là-bas, elle a raconté ça à toutes ses collègues, elle a fait une petite crise. Et à un moment, je discutais avec lui, plus tard, on a parlé de cette histoire. Il me dit, mais je comprends pas les meufs. Il me dit, mais pour qui elle se prend ? Enfin, est-ce qu'elle s'est regardée dans un miroir ? Elle a vraiment cru que j'allais sortir avec elle ? Enfin, on joue pas dans la même ligue. C'est quoi ce monde où la petite grosse pense qu'elle peut avoir accès à un étalon ? Et beaucoup de femmes sont comme ça. Les femmes ont horreur de se faire jeter parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont un vagin magique, que dès qu'elles se donnent à un homme, faut qu'il les prenne, surtout dans le monde moderne. Les hommes, on a un peu l'habitude, c'est normal, l'homme propose, la femme dispose. On a l'habitude de se faire jeter, tu vois, tu branches une gonzesse, elle te jette, tu passes à autre chose, tu passes à la prochaine, tu vois, c'est la vie, t'en fais pas toute une crise, tu pleures pas pendant une demi-heure dans la kitchenette, elle veut pas sortir avec moi. On a l'habitude, c'est la vie d'un homme, c'est comme ça, t'essayes, un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais on fait pas de crise. Alors que les femmes qui n'ont pas l'habitude de se faire jeter et qui se font quasiment tamponner à chaque fois qu'elles en ont envie, ne comprennent pas qu'un homme les rejette. Et un homme, un 5 sur 10, un 4 sur 10, un homme très moche, n'oserait jamais aller parler à un top modèle. Tu sais par avance que dans le meilleur des cas, elle va juste être gentille et polie, mais il ne se passera rien. Alors qu'une gonzesse 4 sur 10 va aller parler à un acteur hollywoodien, DiCaprio, elle va lui parler, genre il va se passer quelque chose. Mais t'es folle. Mais tu t'es cru où ? Tu viens d'où ? Le mec représente 0,19% de la population. Il peut se taper théoriquement n'importe quelle meuf. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec toi ? Soyons réalistes. Pourquoi il va gâcher sa génétique ? Il va gâcher sa descendance avec toi. La meuf, elle est petite, grosse, moche. Elle avait des boutons sur le visage. Enfin, à un moment... Voilà quoi, il y avait d'autres mecs dans l'agence, elle aurait pu aller parler à d'autres mecs moins beaux. Elle a visé le 9, 9,5 sur 10. Un peu de sérieux. Et ça vous explique, cette équation vous explique la solitude des femmes qui ira en s'accentuant. C'est que elles cherchent des hommes qui représentent une infime partie de la population, les hommes qu'elles pensent être normaux. Quand les femmes disent où sont passés tous les hommes, je n'arrive plus à trouver d'hommes, tu lui dis mais qu'est-ce que tu n'arrives plus à trouver? C'est quoi que tu n'arrives plus à trouver? Les mecs d'1 m 90, beaux gosses qui gagnent 150 000 balles par an, c'est ça que tu n'arrives pas à trouver? Bon, ben je vais te donner une info. Ça représente 0,1% de la population. Je peux te dire que tu vas chercher longtemps. Et ça, c'est une vraie désillusion, c'est une vraie illusion. Parce que maintenant que les femmes travaillent, qu'elles gagnent elles-mêmes déjà 40K, 50K, eh bien, pour qu'elles trouvent un homme séduisant, faut qu'il gagne plus. Faut qu'il gagne 60, 70, 80. C'est un peu ça la différence. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avant c'était facile? Ben, avant, quand une femme ne travaillait pas, lorsqu'elle n'avait pas de revenus, dès que l'homme travaillait, elle arrivait déjà à le trouver séduisant. Le fait que tu arrives à générer un revenu, avoir un métier, la protéger, fonder un foyer avec elle, et lui permettre d'élever ses enfants, t'étais déjà l'homme supérieur pour elle. La barre d'entrée, lorsque les femmes travaillaient pas ou lorsque les femmes travaillaient moins, était très basse. Ou j'ai envie de dire, elle était normale. Et dans des temps plus reculés, où il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le star system, il n'y avait pas Tinder, les femmes voient défiler des beaux gosses sur Tinder et elles ont l'impression que c'est des options. C'est pas des options. C'est pas parce que le mec est sur Tinder qu'il a envie de te tamponner. Les femmes ne trouvent attirant que 1% des hommes sur Tinder. Sauf que ce 1% des hommes ont tellement le choix qu'ils ne vont pas forcément trouver toutes les femmes attirantes. Et donc elles sont toutes là à se battre pour les 1% ou les 0,1% de la population masculine. Et elles sont par essence, toute la majorité d'entre elles, condamnées à la solitude. Il y aura une minorité de femmes parce qu'elles seront très belles, parce qu'elles seront féminines, parce qu'elles auront envie d'avoir des enfants qui arriveront à s'accaparer ce type d'homme et à partir avec. Mais pour toutes les autres, ça sera le cimetière des éléphants. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça se passait avec une Polonaise avec qui je discutais récemment. Elle a 27 ans, une gonzesse formidable, très très belle, sublime, comme je les aime. Une blonde, elle vient d'une petite ville en Pologne. Et on parlait de la vie, on parlait de tout et de n'importe quoi. Et on arrive au sujet, bien sûr, des relations hommes-femmes, des enfants. Puis je la regarde et je fais, tu veux des enfants? Elle me dit, oui, bien sûr que j'en veux. Et je lui dis, ok, bon, faut qu'on s'y mette tout de suite. Et moi, je disais ça pour la taquiner, hein. Je lui dis, bon, on y va, quoi, on fait des enfants. Et elle me dit, ah oui, mais non, pas tout de suite, tout de suite. Elle me dit, je travaille, j'ai encore envie de monter un peu dans la hiérarchie, de mieux gagner ma vie. Et moi, toujours en continuant à la taquiner, je lui dis, non, moi, si tu veux que je te fasse des enfants, c'est tout de suite. 27 ans, jeune, belle, fraîche, enfin. Jeune, t'es vraiment dans la limite de ce que moi j'appelle jeune. Tu reviens dans 2 ans, je te touche pas. Et là, bien sûr, comme c'est pas une dégénérée, c'est une Polonaise traditionnelle, même si elle vit dans le monde moderne, il y a quand même des petits restes. C'est ça que je trouve séduisant chez les femmes de l'Est, c'est que même lorsqu'elles vivent dans un monde de dégénérés, lorsqu'elles vivent en Angleterre, en France, elles ont toujours une espèce de reste de tradition qui doit venir de la grand-mère, de la mère. Et elle a éclaté de rire quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, moi c'est maintenant, sinon je te touche pas. Tu reviens dans 2 ans, 29, 30 ans, je te touche plus. T'es working girl, cimetière des éléphants. Elle éclate de rire parce que forcément elle comprend ce langage, elle sait très bien ce que je veux dire. Et je continue en lui disant, mais ce genre d'opportunité, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Il faut arrêter de croire que tu rencontreras toute ta vie des mecs géniaux qui gagnent correctement leur vie. Je lui dis là, écoute, imagine, je te dis pas que c'est le cas, je te dis pas que ça sera le cas. Je l'ai laissé un peu mijoter, je sais pas ce qui va se passer avec elle, mais en tout cas, elle est intéressante et je la garde un peu sous le bras pour l'instant. Je lui dis, voilà, tu es en face d'un mec qui a l'âge qu'il faut, qui a les revenus qu'il faut. Je lui dis pas combien je gagne, sinon elle va pas dormir de la nuit. Et je lui dis, t'es face à cette opportunité qui n'arrivera peut-être qu'une fois dans la vie. Je sais pas combien de fois dans ta vie tu vas rencontrer. Alors j'ai pas été modeste sur le coup, hein, je vous préviens. Mais je lui dis, combien de fois dans ta vie tu vas rencontrer un mec génial qui gagne de la thune, qui te kiffe, qui kiffe les femmes de l'Est, qui te trouve sympa, avec qui t'as connecté. Tu penses vraiment que quand t'auras fini ton délire de working girl dégénéré, il y aura des mecs comme ça à l'appel. Et je l'ai laissé sur ça. Je vais certainement la revoir parce que c'est une gonzesse extrêmement sympa. On va voir ce qui va se passer. Mais ça vous montre à quel point le monde du travail, le monde de la carrière a fait des dégâts. Et si ça se trouve, cette gonzesse qui est très sympa, qui a du potentiel, va finir seule. Elle va continuer à faire la working girl, elle va continuer à travailler, à essayer de faire sa carrière, de gagner du fric, de monter dans la hiérarchie. Sauf que le physique, l'envie de vivre, l'espèce de joie de vivre qu'elle a et qu'ont les jeunes femmes, puis ça se dégrade avec le temps. Plus tu rencontres de connards, plus tu as de relations quand tu es une femme, plus tu es usée. Et moins t'auras tendance à être romantique, à faire confiance aux hommes, à avoir envie des hommes, à avoir cette naïveté qui fait que tu peux vraiment créer, te lancer dans une relation. C'est aussi ça le problème des femmes qui ont dépassé la trentaine, c'est qu'elles sont usées, elles sont cassées et elles ont de grandes difficultés à avoir des relations saines. Et moi, ce que je prédis, c'est que le vocabulaire va changer. Et retenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on parle de femme libre et indépendante, la fameuse femme de la série Sex and the City, les femmes indépendantes qui exploitent leur sexualité, c'est génial, working girl, la carrière, etc. Mais je vous dis un truc, dans le futur, on ne parlera plus de femme libre et indépendante. Le seul mot qu'on va utiliser, c'est femme seule. On parlera des femmes seules, des femmes isolées, qui représenteront la moitié des femmes. La moitié des femmes, des jeunes femmes, entre 25 et 44 ans, seront seules et sans enfants. Voilà la réalité vers laquelle on va. On va assister à un glissement parce qu'on ne pourra plus cacher cette réalité. Ça sera quelque chose qu'on verra partout. Vous allez sortir en 2030 et vous verrez plein de femmes seules dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants. Ça sera triste, ça sera moche, comme dirait un ami à moi. C'est moche. Et les seuls qui profiteront de ça, eh bien, c'est les banquiers et c'est Morgan Stanley qui se frotteront les mains à l'idée de cette manne financière de la solitude des femmes. Et aujourd'hui, eh ben, s'il faut acheter des entreprises, acheter des entreprises qui capitalisent sur la solitude des femmes, cryogénisation des ovules, alcool, notamment le vin, ces millions de femmes passeront des soirées à faire des dégustations de vin et de fromage. Donc, si vous avez des vignobles, si vous voulez investir dans le vin, dans les vignobles, eh bien, ça a encore de l'avenir. La chirurgie esthétique, parce que forcément la solitude et la peur fera qu'elles auront envie de rester belles le plus tard possible pour espérer trouver un homme. C'est aussi ça. Une mère, une grand-mère n'ont pas peur de vieillir. Pourquoi ? Parce que elles ont fait le devoir de transmission. Elles ont leurs enfants, leurs petits-enfants, leur famille, leur tribu. C'est ça qui constitue la stabilité. Elles n'ont plus besoin d'aller dans les bars ou dans les boîtes de nuit se faire éclater le cul ou essayer de rester jeune en faisant de la chirurgie esthétique. Ça, c'est de la dégénérescence de la femme seule. La femme qui vit dans une famille stable, qui a un foyer, qui a des enfants, a d'autres centres d'attention. Donc l'économie de la femme seule, c'est une économie de la dégénérescence. Et que dire, ça va arriver. C'est pas une question, c'est plus un choix. Ça va arriver. Préparez-vous à voir ce déferlement de femmes seules partout. Donc ça sera peut-être une chance pour les hommes qui veulent s'amuser et ne rien construire de sérieux. Il y aura beaucoup, énormément de femmes disponibles. Ça sera une chance pour tous ceux qui auront investi dans cette économie. Ça sera une chance pour Morgan Stanley et tous leurs clients qui ont été avertis. Ça sera une chance pour les gens comme moi qui investissent aussi dans la bourse et qui profiteront indirectement de tout ça. C'est très cynique ce que je dis, mais que faire ? La majorité des femmes ne comprennent pas ce genre de choses. Que faire ? Vous avez beau leur raconter ça du matin au soir, elles vont vous dire « vous êtes un patriarche, vous êtes un rétrograde, vous êtes un mâle blanc dominant qui ne supporte pas l'émancipation des femmes ». Bon ben, ainsi soit-il. Et pour finir, on pourra conclure que la solitude des femmes et cette future solitude des femmes qui va continuer à s'accroître avec le temps n'est liée qu'à un seul facteur, celui de l'offre et de la demande, celui des lois du marché. Lorsque toutes les femmes ne s'intéressent qu'à 0,2% de la population masculine, le marché sature. Lorsque toutes les femmes, des plus belles aux plus moches, des plus athlétiques aux plus grosses, des plus grandes aux plus petites, des plus intelligentes aux plus connes, lorsque toutes les femmes ne s'intéressent qu'aux 0,2% des hommes du sommet de la pyramide, vous comprenez qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.